Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 2. Cyprien Simi.
Je vous garantis que toute l'équipe est au grand complet, que tout va bien et qu'ils sont en très très grande forme. Pour vous informer dans la bonne humeur jusqu'à 20h, comme tous les vendredis soirs, numéro 2 de la saison 2, vous réagissez, vous commentez, vous avez la page Facebook de l'émission à disposition, vous commentez aussi sur le compte Twitter. Une bonne émission, c'est d'abord un bon sommaire. Cyprien, c'est parti.
Depuis mardi, l'amende forfaitaire, ça marche aussi pour le cannabis. 200 euros pour un joint. Objectif, responsabiliser le client, portrait robot du consommateur type. C'est l'une des nouveautés dont défait le monde. Tous les vendredis, on allume la lumière sur une actualité. Un spécialiste nous éclaire et nous apprend des choses sur une info. Cette semaine, en marge du procès Charlie Hebdo, on tente de comprendre pourquoi l'islam interdit les représentations du prophète. La réponse risque de vous surprendre. D'ici 20h, vous découvrirez le grand perdant, le loser de la semaine, cher à la sémillante Céline Landreau, qui a pris sa raquette de tennis ce soir.
Et la petite balle jaune vous emmène à New York pour un séjour covidé et cauchemardesque.
Quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on ne parle plus, c'est le billet retour de Brice Dugénie. Vous nous emmenez au Moyen-Orient.
Oui, un an et demi après la chute du califat, que reste-t-il de l'organisation État islamique ?
Évidemment, à suivre vos incontournables trois infos pour briller au dîner, les récits de vos aventures et de vos projets dans Marche ou Rêve, et un immense cadeau vers 19h40, puisque ce soir, on vous offre carrément un week-end dans un hôtel 4 étoiles de folie, face à l'océan, avec deux soins au spa en plus. C'est assez exceptionnel. Soyez bien à l'écoute, la terrible et tant redoutée question du jeu, ce sera vers 19h40. On défait le monde, saison 2, épisode 2, en route pour l'aventure.
On défait le monde dans RTL Soir.
La sémillante.
Oui, on peut revenir sur ce mot.
Sémillante. Non, moi, c'est pas ça qui m'a choqué, c'est plus le en route vers l'aventure.
Je suis jamais sémillant, moi.
Non, pas pour l'instant.
D'accord.
Mais peut-être que ça va venir.
On défait le monde, c'est un surf bien sûr avec Cyprien Signy et c'est le surf de la semaine.
Et cette semaine, la grosse actu, c'était quand même la présentation du plan de relance du gouvernement. Et dans notre monde d'aujourd'hui, vous le savez, il y a quand même un point essentiel, c'est la communication, le marketing. Faut un nom qui claque pour ce plan de relance, un truc jeune, moderne. Résultat, talam.
Désormais officiellement baptisé France Relance.
France Relance, parce que...
C'est la marque d'une démocratie moderne.
France Relance, la marque d'une démocratie moderne. Et c'est vrai que c'est moderne, France Relance.
France Relance, la marque d'une démocratie moderne.
Ah bah oui, la moderne. Encore une preuve.
France-Angleterre de rugby à 15 à Colombes. Les Français en maillot sombre débordent les Britanniques. À l'instant même où, suivi du prince régnier, Grace Kelly pose le pied sur le sol monégasque.
Et le Premier ministre Jean Castex annonce...
France Relance, la marque d'une démocratie moderne.
Ça colle bien, hein. Bref, longue vie à France Relance. Donc, bon, sinon cette semaine, le masque encore à la une et la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, face à une question.
Est-ce qu'on va devoir, sur les plateaux de télévision et sur les plateaux de radio, porter un masque ?
Alors elle explique que non, et elle était dans le studio de France Musique pour le dire, sauf que ben...
Nous avons été collègues, madame la ministre, c'est sans complaisance ni agressivité qu'il ne...
Alors, j'ai posé mon masque.
Ouais, elle aurait peut-être dû le garder en fait, son masque, hein, pour le coup. C'est la quinte qui tombe mal. Sinon, on a trouvé notre chouchou de la semaine. Alors, c'est un parlementaire suisse écolo. Ah. Je vous explique. La Suisse va bientôt voter pour savoir si elle doit acheter de nouveaux avions de guerre et si ça a une réelle utilité. Et alors que souvent, ça peut donner lieu à des débats enflammés, voire violents, notre écolo suisse, lui, il a choisi une autre méthode pour expliquer son point de vue, l'argumentaire par l'absurde. Écoutez.
À quel moment ces avions seraient amenés à intervenir ? Alors, il peut y avoir la violation de l'espace aérien. On met 8 minutes pour traverser la Suisse. Il faut vraiment partir très vite pour attraper un autre avion avant qu'il ait fini. C'est vrai que ça fait partie du concept. C'est pas d'un réalisme total, mais bon.
Ouais, bon là, ça sert à rien. Mais il va plus loin.
Il y a quelque chose de beaucoup plus grave. C'est qu'une aviation ennemie arrive avec de mauvaises intentions jusqu'à la Suisse. En principe, c'est pas l'OTAN qui va nous attaquer. On n'a pas encore été suffisamment désagréable avec nos voisins pour prendre ce risque. Mais ce risque, on peut le considérer comme nul ou non existant.
Oui, mais alors du coup, il va encore plus loin.
Alors admettons que l'aviation russe ou l'aviation chinoise arrive jusqu'à nous. Ça signifie que l'OTAN n'a pas réussi à les empêcher de passer. Donc l'OTAN, principe la plus grande puissance militaire du monde, malgré Trump, a perdu. Puis avec nos 15 avions... on va sauver l'entier du continent européen. Ça me paraît pas réaliste, non.
Oui, bon, bah, les avions, c'est vrai que vu comme ça, hein, ça va pas nous leur servir des masses aux Suisses. Enfin, je voulais vous faire écouter Chico. Oui, Chico, c'est un perroquet, mais alors pas n'importe quel perroquet. Vous connaissez la chanson de Beyoncé, If I Were a Boy ?
J'attendais d'écouter quand même.
Eh ben Chico le perroquet, il la chante la chanson et c'est fascinant, écoutez. Vous voyez que ça marche bien. Et rien que pour Chico, bah, vivement la semaine prochaine. Hein.
C'est votre métier de faire ça, Cyprien, c'est génial.
C'est dur, hein.
Oh, la Suisse.
Écoutez,
c'est des heures de travail, ça. Ah, non,
vos commentaires sur le compte Twitter et la page Facebook.
On défait le monde sur RTL.
C'est tout en direct, c'est jusqu'à 20h, on défait le monde bien sûr, toute l'actualité traitée avec rigueur et bonne humeur. Et la première grosse info de ce soir concerne donc Cyprien, le cannabis.
Oui, depuis le 1er septembre, c'est la loi, une amende pour un joint, tarif 200 €. C'est une nouveauté dans la législation française, l'objectif, désengorger les tribunaux, responsabiliser les consommateurs. Et d'ailleurs, Laurent, comme c'est une loi qui vise essentiellement les consommateurs, est-ce qu'on a une idée de qui ils sont ? Est-ce qu'il y a un profil type qui se dégage ?
Alors, on a déjà une petite idée du nombre de fumeurs à prendre, évidemment, avec précaution. Un peu plus de 900 000 personnes consomment du cannabis tous les jours en France. On est les champions d'Europe. Éric Pouya est député de La République En Marche de Gironde. Il est à l'origine de cette amende forfaitaire et il vise une génération bien précise.
Chez les 15-20 ans, aujourd'hui, on régresse. On est même loin derrière nos voisins européens. Mais par contre, la tranche d'âge des 25-45 elle est en train d'augmenter. Et donc, on suppose que c'est un glissement, en fait. C'est juste les fumeurs qui ont vieilli. Ils ont un phénomène générationnel qui fait qu'en fait, c'est tout simplement ces gens qui n'ont pas arrêté de consommer. On voit qu'il y a peut-être une génération qui n'en sort pas, en fait.
Une catégorie d'âge confirmée par les policiers. Yves Lefebvre est le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO.
On a un vieillissement. On est plus, je dirais, sur la catégorie des trentenaires. Et manifestement, on est de plus en plus une catégorie qu'on appelle communément les bobos. Les vendeurs, eux, ne sont absolument pas des bobos, très loin s'en faut, on a affaire à des délinquants. Il y a eu, je dirais, plus un élargissement sociétal du consommateur.
Donc vous l'avez compris, le profil type du fumeur de cannabis a entre 25 et 45 ans et vient d'une catégorie sociale de plus en plus aisée.
Et donc cette amende forfaitaire, on sait si ça fonctionne ?
Alors elle a été testée depuis juin à Rennes, Reims, Créteil et depuis mi-juillet à Lille et Marseille. Elle concerne uniquement les personnes majeures et est inscrite au casier judiciaire. Elle facilite le travail des policiers, hein, des dizaines d'heures de procédure en moins. Elle permet de rappeler l'interdiction de la consommation. Mais pour Béchir Sakhet, le porte-parole de l'association L630, l'amende est un échec et ne ciblera pas toute la population.
L'amende forfaitaire, c'est une condamnation sur le trottoir et elle va forcément concerner davantage les personnes qui sont dans les quartiers populaires et plus généralement les jeunes hommes issus de l'immigration qui sont aujourd'hui surreprésentés dans la pénalisation de l'usage de stupéfiants.
On est donc loin du portrait robot du consommateur type Bobo décrit par Yves Lefebvre, et Béchir Sakhet fait un autre constat.
Depuis le début de l'expérimentation de l'amende forfaitaire, on a 545 amendes qui ont été prononcées et seulement un tiers qui ont été véritablement recouvrées. Donc le gain de temps qui est prétexté par les forces de l'ordre, finalement il va être perdu à essayer de faire recouvrir ces amendes, sachant qu'elles vont concerner généralement des populations qui sont plutôt marginalisées, plutôt débancarisées et insolvables, et donc ça va être extrêmement difficile de récupérer l'argent.
Alors sur ce point, il faut rester prudent, nous n'avons que très peu de recul. L'expérimentation de l'amende forfaitaire est récente, il faut attendre de voir sur l'ensemble du pays. Un premier retour, mardi, les policiers en ont délivré 73 dans toute la France. Des critiques qui sont en tout cas partagées par Céline Parizeau, la présidente de l'Union syndicale des magistrats. Pour elle, l'amende ne règle pas le problème de la consommation.
Avec l'amende forfaitaire, il n'y aura pas de travail sanitaire possible puisqu'il n'y a pas de suivi prévu de ces fumeurs de joint. Donc il n'y a aucun suivi, il n'y a aucune prévention. Donc cette amende, elle n'a vraiment pour objectif que d'alléger la procédure pour les forces de l'ordre et pour les juridictions.
Et je vous rappelle le montant de l'amende forfaitaire, 200 €, elle peut passer à l'air 150 € en cas de règlement dans les 15 jours.
Et alors là, je me tourne vers le grand reporter du service étranger, le baroudeur dans Défait le Monde, celui qui a le passeport en bandoulière, Brice. Dans les autres pays, comment ça se passe ? Parce que j'ai plutôt l'impression que nos voisins, ils font l'inverse de ce qu'on est en train de faire, ils sont plus permissifs.
Oui, absolument. Beaucoup de pays font le chemin inverse. Certains ont totalement légalisé le cannabis pour un usage festif, récréatif, c'est assumé. Alors c'est le cas du Canada, de l'Afrique du Sud, de l'Uruguay, petit pays d'Amérique latine qui a été le premier à le légaliser, c'était en 2013. Et puis il y a quand même 9 États américains, dont la Californie, le Colorado ou l'Alaska, où la consommation consommation de cannabis est totalement légale. Et puis en Europe, plus proche de nous, la France reste et donc accroît avec cette amende son statut de pays le plus répressif par rapport à l'Italie, l'Espagne ou la Grèce qui ont eux décidé de dépénaliser l'usage du cannabis. Donc la France sanctionne et pourtant, comme le disait Laurent au début de sa chronique, la France reste en Europe le pays où on en consomme le plus. Preuve peut-être que cela a ses limites.
Voilà, dossier complet de toute l'équipe, bien sûr, de On défait le monde avec Cyprien Sini, Laurent Tessier et Brice Dugénie. Vous restez bien là, la première info pour briller au dîner dans un instant. Greg, c'est qui s'en charge de la première? Je crois que c'est une femme.
Ah ouais, je crois aussi.
Je
oui.
crois qu'elle est sémillante.
Ouais. Ah, il n'y en a qu'une dans l'équipe.
Je crois que, c'est, bien, hein.
Je crois que c'est Céline Landreau. À tout de suite.
RTL Soir, On défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Dans moins de 10 minutes, dans On défait le monde, vous allez tout savoir sur le super cadeau du vendredi soir. Un autre cadeau pour vous, c'est Céline Landreau pour la première info pour briller au dîner. Vous nous emmenez où ?
Au Panthéon. Vous savez, c'est là qu'Emmanuel Macron a prononcé son discours aujourd'hui pour les 150 ans de la République. Le Panthéon, qui avant d'être un temple laïque, était en fait l'église Sainte-Geneviève et qui est aujourd'hui ce lieu où la patrie vénère les grands hommes et les grandes femmes, même si elles ne sont pas très nombreuses.
Mais il y en a 5, non ?
5, exactement. Ouais. Mais est-ce que vous savez qui fut le premier à entrer au Panthéon ? On était en 1791, c'était un révolutionnaire, un député du tiers-état, Mirabeau, très aimé du peuple. C'est d'ailleurs en son honneur que l'église Sainte-Geneviève est devenue Panthéon, premier panthéonisé donc, mais aussi le premier à s'en faire sortir du Panthéon quand l'année suivante, on a découvert la correspondance de Louis XVI et on s'est rendu compte que le révolutionnaire jouait un petit double jeu et qu'il conseillait aussi le monarque.
Un petit aller-retour, c'est l'info pour briller au dîner ce soir avec Céline Landreau, 19h32.
Allume la lumière.
Allume la lumière, c'est l'un des nouveaux rendez-vous de cette saison 2 dont défait le monde. Allume la lumière. Cyprien, vous nous en rappelez le principe ?
Alors, toutes les semaines, face à des actualités complexes, on décide d'inviter celui qui va nous éclairer de son savoir pour allumer la lumière dans l'obscurité de l'info. Et en préparant l'émission, Céline, en discutant du procès Charlie Hebdo, on s'est demandé pourquoi, au-delà même de la caricature, l'islam interdit de représenter le prophète.
Oui, parce que c'est vrai que les catholiques n'hésitent pas à représenter Jésus, il est dans toutes les églises, juifs et orthodoxes s'appuient beaucoup sur l'iconographie. Alors pourquoi est-ce différent avec l'islam? Pour comprendre, on allume la lumière avec vous ce soir, Malik Bezou. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Malik Bezou. Vous êtes l'auteur de Ils ont trahi Allah aux éditions de l'Observatoire. Pourquoi on ne peut pas dessiner le prophète? C'est écrit dans le Coran ou pas?
Non, pas du tout. C'est ce qui est tout à fait paradoxal. Il n'y a aucune interdiction, j'allais dire canonique, religieuse, mentionnée dans la religion musulmane à travers son corpus, c'est-à-dire le Coran. Et la sunna, alors la sunna c'est l'ensemble des faits et gestes du prophète, il n'y a absolument rien, il n'y a aucun texte qui vient interdire la représentation du prophète ou des prophètes. Et pourtant, effectivement, il semblerait qu'aujourd'hui les représentations posent problème.
Ça vient d'où alors ?
Alors il faut revenir à la source, c'est-à-dire au Coran. Dans le Coran, la notion de blasphème n'existe même pas. Alors d'où ça vient ? C'est une espèce de bricolage que les théologiens de l'islam, et notamment de l'école hanafite, alors pour faire simple, il y a 4 grandes écoles dont l'islam sunnite, et une des plus importantes, qui est l'école hanafite, va considérer que dessiner, en tout cas faire une représentation du prophète, c'est imiter Dieu dans sa création. En fait, ce qui va poser surtout problème, c'est le fait d'essayer d'imiter Dieu. Mais c'est vrai qu'il n'y a, et ça c'est extrêmement important, il n'y a pas d'interdiction canonique. Rien n'interdit dans l'absolu de représenter le prophète. On peut dessiner le prophète en islam, ce n'est pas un péché. C'est un péché parce que des théologiens vont l'interpréter dans ce sens-là.
Et cette interprétation, Malik Bezou, elle date de quand ?
Alors là, on est plutôt... Alors l'école hanafite, c'est le 8e siècle, et puis ensuite, elle va faire des émules, mais...
Et est-ce que ça veut dire, pardon, qu'il y a des représentations du prophète avant ?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'à partir du 13e siècle, et peut-être même un peu avant, hein, là j'utilise peut-être parce que les historiens ont quelques doutes, mais on trouve des illustrations de Mahomet, en Perse, donc l'Iran actuel, en Inde, en Turquie, en Afghanistan, et ça ne posait absolument aucun problème, hein, et jusqu'au 18e siècle, on va trouver, notamment dans l'islam chiite, mais pas seulement dans l'islam chiite, des images représentant le prophète. Alors, il y a juste un élément qui est important, les sunnites vont considérer, alors les sunnites c'est grosso modo 85% de l'islam mondial, hein. Les théologiens sunnites vont dire qu'il faut éviter de dessiner le prophète, parce que on peut tomber, on peut verser dans une forme d'idolâtrie. Et pour les théologiens de l'islam sunnite, ce qui prime, c'est avant tout l'adoration et la vénération de Dieu. Et c'est pour ça que les théologiens vont être extrêmement strict et intransigeant en expliquant qu'il ne faut pas faire de représentation. Alors même, il n'y a absolument aucune interdiction canonique à la représentation du prophète.
C'est très clair. Merci beaucoup, Malik Bezou, d'avoir allumé la lumière pour nous ce soir.
Je vous en prie.
Et je rappelle votre ouvrage, Ils ont trahi Allah, aux éditions de l'Observatoire.
Merci.
19h36.
À suivre dans On défait le monde.
Vous découvrirez le loser de la semaine, le billet retour de Brice du Génie et surtout, surtout, le jeu. Oui, oui, le jeu.
On défait le monde dans RTL Soir. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
On pourrait pas changer de musique.
Bah bientôt, en
bientôt.
Non mais
je sais pas, mettre un truc rock ou techno.
Je vais changer de concept.
Ouais, concept. Ouais.
En direct. Hein,
comme ça. Alors on en a.
Ah ouais, Greg, on peut bosser là-dessus.
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
Ah non, non, pourquoi? Il faut voter.
Alors, c'est la deuxième info pour briller au dîner ce soir. C'est avec Brice et on parle quoi?
Brexit. Absolument. Moi, je voulais vous reparler Brexit d'abord parce que les négociations vont reprendre lundi entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Et vous savez, si vous savez pas, je vous l'apprends, qu'on se dirige quand même de plus en plus vers une sortie sans accord, le No Deal, le Brexit dur. Et pour les Britanniques, la perspective en pleine crise du Covid d'affronter une nouvelle crise d'un Brexit sans accord, eh bien, ça les inquiète tellement que les Britanniques, ils ont créé un mot pour qualifier cette double angoisse mixée, Brexit et Covid. Ils ont appelé ça, en combinant les deux mots, le Brovid. C'est une sorte de double angoisse un peu déprimante de l'avenir. Donc, ils ont créé un mot valise à partir de deux mots valises. Voilà, je sais pas comment faut
un
appeler
mot
ça.
Mal.
Un mot mal.
Un mot mal, absolument. Enfin, mal, M-A-2-L-E.
Un mot camion.
Ça peut être ça.
Un mot
bagage. Voilà. Voilà. Brovid, c'est un peu la déprime de l'avenir avec le Covid et le Brexit.
Une bonne info pour Royer Audi.
Terminé.
Pile dans le timing. Tout va bien, il est 19h40.
RTL. Le loser de la semaine.
Et cette semaine, faut bien le reconnaître, beaucoup de concurrence pour décrocher le pompon de grand perdant, de loser de la semaine. Oui, car le karma n'a pas été tendre avec le sport français, Céline.
Alors, je vous arrête tout de suite. Hein. Le sujet, c'est pas le PSG et la virée à Ibiza. Pas non plus la course de Julien Alaphilippe qui l'a privé du maillot jaune. Non, moi je vous parle de losers malgré eux, les joueurs de tennis français engagés à l'US Open. Et là, il n'est pas question de leurs résultats sportifs, mais de leur tournoi de pestiférés. Tout a commencé le week-end dernier.
L'US Open de tennis qui débute demain. Benoît Paire, testé positif et privé du tournoi.
Benoît Paire, positif au coronavirus, aussitôt exclu du tournoi, placé à l'isolement. Et tous les joueurs qui l'ont côtoyé se sont retrouvés, eux aussi, sous cloche, sous étroite surveillance. Ils peuvent continuer le tournoi, mais sans voir personne, en gros, comme l'a raconté Édouard Roger Vasselin sur RTL. Pas question, par exemple, de se déplacer librement dans l'hôtel.
Déjà, ils m'enlèvent le badge la nuit. Si je veux aller prendre un café le matin en discretos, je peux même pas parce que, d'une, j'ai pas le droit et deux, je pourrais même pas parce qu'il faut le badge à chaque fois pour passer n'importe quelle porte. Il y a un vigile qui contrôle ça.
Et quand il peut enfin sortir de l'hôtel pour aller s'entraîner?
On n'a pas d'accès au vestiaire. Donc, on a une petite douche de service au fond du stade. Elle a le mérite d'être là, mais c'est pas très pratique.
Et vous avez le droit de taper avec qui?
Avec tout le monde, mais pour l'instant, personne ne veut jouer avec nous.
Personne n'en veut. Et c'est peu dire que ça pèse sur le moral des joueurs et des joueuses, comme l'a reconnu Kristina Mladenovic.
Je suis à Bond, donc j'ai jamais été dans un état pareil. C'est un cauchemar ce qu'on vit là. J'ai qu'une seule envie, c'est retrouver ma liberté.
Bref, New York, comme vous n'avez aucune envie de la voir, et tout ça, peut-être pour rien, car sur Instagram, Benoît Paire a donné de ses nouvelles avant-hier.
Écoutez, pour vous dire la vérité, j'ai été testé négatif là. C'est un test qui était négatif il y a deux jours. Et je me sens très bien, j'ai pas de symptômes, j'ai jamais rien eu, donc tout va très bien.
Alors, le français a-t-il été exclu après un faux positif? On ne le sait pas encore. Mais si ça se confirme, ce serait vraiment la grosse lose.
La grosse lose.
Énorme lose. Oh,
Céline Andro, il est 19h.
La Philippe, c'était pas mal aussi, quand même.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas mal. Histoire de bidon. Ouais. La grosse boulette. 19h42, le jeu.
Évidemment. Car cette saison. J'adore cette musique.
Moins d'enthousiasme, c'est possible.
Évidemment. Bien sûr. Car cette saison, notre mantra, on ne s'en lasse pas, c'est toujours.
Alors, notre credo, il est simple. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, c'est du soldissimo.
Et ce soir, plaisir de vous offrir un cadeau exceptionnel.
Exceptionnel.
Mais pour vous annoncer ce merveilleux cadeau, on a mis le paquet.
C'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Oui, Maintenant, on a un monsieur cadeau. C'est notre réalisateur Grégory Caranoni.
Ah, vous avez même fait un jingle.
Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on gagne ce soir, Greg?
Ce soir, la grande terrasse hôtel et spa. C'est un hôtel 4 étoiles qui est proche de La Rochelle. Va vous offrir un petit séjour. Vous allez pouvoir profiter de deux soins dans une ambiance plutôt zen. Ouais. Apaisante et feutrée. Ça s'appelle le Thalasso Spa Marin, la grande terrasse. Et si vous voulez plus d'infos, c'est lagrande-terrasse.com.
Merci Greg.
C'est super produit.
Ouais, c'est énorme. Mais avant d'aller dormir dans ce lieu paradisiaque, il faut d'abord répondre à la question du soir.
La question.
Attention, écoutez bien. Que se passe-t-il si vous vous faites attraper avec du cannabis? A. Vous allez directement en prison, vous passez pas par la case départ et vous touchez pas 20 000 francs. B. Vous avez une amende de 200 euros. Ou c'est, vous gagnez une Opel Corsa 5 portes intérieur cuir. Que se passe-t-il?
C'est pas possible. Moi j'ai dit que je trouvais ça. Ouais. Non.
Que se passe-t-il si vous faites attraper avec du cannabis? La prison, l'amende de 200 euros ou l'Opel Corsa? Désolé. Je trouve ça grotesque. Vous avez la bonne réponse, 32-10, on tirera au sort parmi les gagnants ou les gagnantes et on passera un petit coup de fil au vainqueur en toute fin d'émission à gagner un séjour en week-end à l'hôtel.
C'est ça, la fortune.
Évidemment. 3-2-1-0, vous nous rejoignez le standard et pour vous la réponse évidemment juste avant 20h.
On défait le monde sur RTL.
Toute l'équipe vous accompagne, vous commentez, vous réagissez, la page Facebook, le compte Twitter, le billet retour à 19h44 quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on parle moins aujourd'hui, Cyprien.
Et cette semaine, le président de la République, Emmanuel Macron, après son passage au Liban, s'est rendu quelques heures à Bagdad, en Irak, où il a notamment déclaré ça.
La lutte contre Daesh n'est pas terminée. Les combattants de Daesh demeurent dans la région et sur votre sol. Nous continuerons d'agir. Ce combat n'est pas terminé.
Oui, il a parlé de la lutte contre Daesh et forcément, ça a un peu éveillé notre curiosité. Brice, il existe encore le califat de Daesh?
Alors non, Daesh n'a plus de territoire, ce n'est plus un État, ce n'est même plus une organisation militaire. L'État islamique est devenu, ou peut-être redevenu, une organisation clandestine. Alors qui mène des actions violentes, certes, mais contre des autorités locales, des attaques ponctuelles, des attentats, des affrontements, des enlèvements. On a vu d'ailleurs ces dernières semaines, ces derniers mois, des combattants affronter des militaires syriens ou irakiens, mener des actions contre des responsables politiques locaux ou des forces de sécurité locales. Et depuis quelques mois, ils sont même très actifs dans des zones dans lesquelles pourtant ils n'avaient plus été vus depuis longtemps, notamment à moins de 100 km de Bagdad, la capitale irakienne. La stratégie de Daesh désormais n'est donc plus le combat à long terme, n'est plus la logique territoriale, non. C'est une stratégie d'évitement, de clandestinité et d'affrontement plus ponctuel, plus ciblé. Selon les estimations, il y aurait encore en Irak environ 3000 hommes se revendiquant de l'organisation État islamique.
Mais alors, s'ils ne peuvent pas reprendre le contrôle de ces régions, pourquoi ils font ça?
L'objectif, c'est plus le territoire, mais c'est de maintenir une forme d'insécurité, c'est-à-dire d'empêcher que l'État central ne se réorganise, c'est le cas en Irak, et pour cela, ils continuent de faire régner la terreur parmi les populations, afin qu'elles aussi ne s'impliquent pas dans un retour à la normale, donc continuer leur activité clandestine dans certaines régions, notamment les zones montagneuses ou plus reculées, dans lesquelles cette clandestinité est plus facile à établir.
Et avec le contexte très tourmenté en ce moment, est-ce que ça favorise leur activité?
Absolument. En fait, le Covid a une conséquence directe. C'est-à-dire que la pandémie, d'abord, elle a changé l'ordre des priorités des pays occidentaux, notamment des pays de la coalition. La lutte contre Daesh est passée numéro 2 derrière la lutte contre le Covid. L'autre conséquence du Covid, c'est que tous les formateurs militaires occidentaux, notamment français qui étaient en Irak, ont quitté le pays pour des raisons sanitaires. Et ces militaires français, ils forment les Irakiens notamment à la lutte contre Daesh. Donc tous ces formateurs sont partis. Et cela a des conséquences sur le développement, l'entraînement des forces armées irakiennes qui combattent l'État islamique au quotidien. Et puis il y a aussi, on ne va pas revenir en détail dessus, mais les tensions régionales entre les États-Unis et l'Iran qui ont provoqué la chute de l'État irakien.
Mais alors Brice, s'il n'y a plus de militaires français en Irak, de quoi parle le président Macron quand il dit « nous allons continuer à agir » ?
Alors d'abord, son voyage en Irak cette semaine, c'était l'occasion d'envisager un calendrier de retour de ces formateurs dont je vous parlais, ça c'est un. Et deux, il fait surtout référence aux avions de chasse français qui sont postés en Jordanie sur une base aérienne. Et c'est de là que les rafales français décollent et ils mènent encore régulièrement les bombardements des positions de l'État islamique dans le cadre de la coalition internationale pour aller les chercher dans leur clandestinité.
Tout est dit, tout est clair, c'est signé Brice du Génie dans On défait le monde. On est ensemble jusqu'à 20h. Vous restez bien là, c'était le billet retour. Dans un instant, c'est la troisième info pour briller au dîner avec Laurent. A tout de suite.
On défait le monde sur RTL.
toute la ferveur populaire et l'émotion du vélo avec Total Direct Energy. Un maximum d'économies sur l'électricité et le gaz.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
C'est l'heure de notre coup de fil quotidien à l'équipe Total Direct Energy. Et ce soir, nous sommes avec Thierry Pouget, ostéopathe du team. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Isabelle.
Thierry, demain sera une journée éprouvante pour les coureurs avec l'ascension de plusieurs cols. Est-ce qu'il y a des problématiques récurrentes suite à ce genre d'épreuve?
Pour les étapes de montagne, les coureurs souffrent souvent des cervicales ou des lombaires. Ils n'ont pas été épargnés bien souvent des premiers jours de course. Donc la veille des étapes de montagne, on porte un intérêt particulier aux équilibres de bassin, l'équilibre crânien sacré, afin que chacun puisse aborder les courses dans les meilleures conditions.
Alors justement, en quoi les soins que vous procurez en amont de ce type d'épreuve sont-ils différents de ceux appliqués au quotidien?
Le massage s'intéresse surtout à l'équilibre musculaire, alors que l'ostéopathe va s'intéresser à l'équilibre ostéo-articulaire, qui permet de maintenir, de régir l'ensemble de nos articulations. Mmh. Alors que le masseur va surtout s'intéresser à détendre toutes les tensions musculaires. Mmh. Mais les deux travaux sont totalement complémentaires.
Mmh, ok. Et à quelle fréquence voyez-vous les coureurs?
Alors, on ne voit pas les 8 coureurs tous les jours.
D'accord.
Il faut reconnaître que s'ils sont vus une fois tous les 2 jours, ça suffit, en dehors de chute le jour même.
Je comprends mieux en tout cas. Merci pour tous ces... je comprends mieux. En tout cas, merci pour toutes ces explications, Thierry, et on vous souhaite bon courage pour vos soins de ce soir.
Merci, bon courage. Au revoir.
Au revoir, Thierry, et à demain pour un nouveau coup de fil à l'équipe Total Direct Energy.
Toute la ferveur populaire et l'émotion du vélo avec Total Direct Energy. Un maximum d'économies sur l'électricité et le gaz.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Et c'est déjà la troisième info pour briller au dîner, pour vous aider justement à épater la galerie. Troisième info avec Laurent.
Alors on a beaucoup parlé en début de semaine de la série de trains bloqués pendant des heures dans le sud-ouest. Et souvent on entend les critiques, oh là là, mon train n'arrive jamais à l'heure. Alors il est temps d'éclaircir ce sujet.
Les critiques sont parfois beaucoup plus violentes.
C'est vrai, je suis resté poli. Quel est le pourcentage de trains qui arrivent en retard chaque année? Ça c'est de la question, de l'info pour briller au dîner ou avec vos voisins dans le CGV.
On peut jouer?
Allez-y.
4%.
2%.
Qui dit
2%?
Moins de 2. Moins de 2%.
Eh bien non, selon une étude, attention, qui date de 2019, hein, c'est très sérieux, 13% des trains n'arrivent pas à l'heure. 87%, bon, sont quand même ponctuels, on va relativiser. La France ne fait pas partie des bons élèves en Europe, même si derrière nous, il y a nos amis belges et italiens. Ah. Et la première place revient à la Lettonie, 99% de ponctualité. Chapeau.
Mais les trains? Ils ont deux trains.
Ah, c'est peut-être pour ça.
Oh, non.
Et les Suisses et sont pas premières. Eh non, seconde place pour les Suisses et troisième aux Pays-Bas.
Ouais. Voilà la troisième info pour briller au dîner ce soir dans Défait le monde, 19h52.
Merci, Esprit.
Marche ou rêve.
Ça aussi, c'est un nouveau rendez-vous. Hein.
Un rendez-vous qu'on adore. C'est le moment de l'émission où on vous accueille, où vous nous faites rêver, où vous nous racontez vos projets fous, vos initiatives. La semaine dernière, on était avec une famille qui a tout plaqué pour se lancer dans un tour du monde à vélo. Ils étaient en Autriche, on reprendra de leurs nouvelles d'ailleurs. Et cette semaine, Laurent, on était avec quelqu'un qui a fait quelque chose dont on a tous forcément pensé, enfin sans jamais aller au bout quoi, enfin, en tout cas moi, quelqu'un qui a changé de vie.
Ouais, je
changé de boulot.
Ouais. Ça, il je vous présente Alexandre.
Débrouillez-vous avec ça, Laurent.
Voilà. Bon, on y va, on enchaîne. Alexandre a 32 ans, il a lâché son activité dans la charpente métallique pour monter une épicerie ambulante. Alors c'est tout frais comme ses produits, puisqu'il a démarré lundi, hein, ses tournées dans une trentaine de communes rurales autour d'Alençon, dans le département de l'Orne. Un moyen, une aide pour lutter, vous savez, contre la désertification des commerces. Son entreprise s'appelle la Casa d'Épi et est avec nous ce soir. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous est venue cette idée de monter cette épicerie ambulante?
Grâce au confinement, tout simplement. J'ai vu tellement de personnes qui étaient dans la panade, qui avaient besoin d'un service. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lancer une supérette ambulante.
Et ça faisait longtemps que vous vouliez quitter votre métier de charpente métallique ou ça vous a pris comme ça aussi?
Non, du tout. Je suis quelqu'un de pas stable niveau boulot. Je n'aime pas avoir un patron derrière moi. Du coup, on va dire que le confinement m'a aidé à me lancer.
Et Alexandre, vous vendez des produits locaux, donc vous collaborez avec les agriculteurs du coin. Racontez-nous comment tout ça s'est produit.
Oui, donc j'ai pris contact avec plusieurs agriculteurs pour avoir des produits frais et locaux essentiellement à proposer à tous mes clients. Après, on est rentré en contact, on a discuté, et puis de fil en aiguille, on est arrivé à un accord pour pouvoir servir tous les clients.
Vous avez démarré lundi, les clients répondent présent, ça n'a pas traîné?
C'est ça, non, j'ai commencé ma première tournée donc lundi, et donc avec une grande surprise, j'ai fini la journée avec 20 clients, une bonne petite journée de début.
Et ça ressemble à quoi votre petite supérette là? Vous pouvez nous la décrire?
Alors c'est une petite remorque que j'ai aménagée donc avec une vitrine réfrigérée, donc un petit coin boulangerie, donc avec du pain frais et des viennoiseries frais tous les jours. Et puis il y a des conserves, des fruits et légumes, vraiment une super remorque, sauf elle est mobile.
Ça, c'est... Et le bouche à oreille fonctionne, Alexandre? Il y a même des restaurants, d'autres communes qui vous ont contacté depuis?
C'est aujourd'hui encore monté, donc à partir de la semaine prochaine, je passerai dans des nouvelles communes.
Ouais, c'est génial.
Et,
ouais.
Et sur vos premiers clients, est-ce que vous avez ressenti chez certains le côté pas arrivé comme le Messie, mais genre vous arrivez ici alors qu'il n'y a plus rien? Est-ce qu'ils vous ont dit des choses comme ça, vos premiers clients?
Déjà, ils m'ont rappelé qu'à l'époque, il y avait déjà quelqu'un qui passait, qui apportait ce service-là à l'époque. Donc du coup, on revient dans le passé, comme on disait avec certains clients. C'est un retour dans le passé qu'on fait aujourd'hui. Mais beaucoup de personnes étaient dans le besoin, justement, de mon service.
Bravo en tous les cas.
Bon dans le passé aussi.
Voilà, c'est dans les communes rurales autour d'Alençon, donc c'est la Casa des Pies. On prendra de vos nouvelles évidemment le plus régulièrement possible. On vous souhaite que des belles choses dans cette nouvelle aventure.
Et on rappelle que si vous voulez participer à cette chronique, c'est la vôtre. Hein. Vous n'hésitez pas, vous envoyez des messages sur les réseaux sociaux de l'émission @on défait le monde, sur le compte Twitter et sur Facebook. Le compte Twitter aussi, c'est on défait le monde. Et puis on attend vos messages. Laurent les sélectionne parmi les meilleurs.
Casa des Pies avec Alexandre.
Casa des Pies. Et on a une gagnante
qui
va avoir la chance de partir en week-end dans un hôtel 4 étoiles magnifique. Elle s'appelle Corinne, elle habite à Paris. Bonsoir Corinne.
Bonsoir à toute l'équipe.
Comment ça va Corinne?
Merci.
Comment ça va?
Mais ça va très bien, je vous entends, tout va bien.
Bon, super. Alors on rappelle, la question c'était l'amende pour cannabis. Est-ce que c'est 200 euros? Est-ce que c'est vous allez directement en prison? Ou est-ce que vous en gagnez une Opel Corsa?
Non, c'est 200 euros, c'est une amende de 200 euros.
Bravo, et c'est magnifique. Bravo. Vous savez avec qui vous allez partir ou pas alors dans cet hôtel 4 étoiles?
Oui, avec mon conjoint.
Chance. Je crois qu'il peut pas.
Il y a des volontaires en studio si vous voulez.
Ouais. C'est bien entendu. Bah, écoutez, si vraiment je désiste, je vous rappellerai.
Vous nous tenez au courant.
Merci beaucoup. En tout cas, je remercie beaucoup RTL et merci à vous tous. Vous faites une équipe super. Merci beaucoup.
Profitez-en bien, Corinne. C'est un plaisir.
Profitez bien. Vous raccrochez surtout pas. Bien sûr, on vous récupère hors antenne pour caler correctement ce week-end. Toute l'équipe, on se dit à vendredi prochain.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut. J'ai pas entendu, Greg, pardon.
On sait pas qui a gagné l'info pour briller du jour.
Oui. C'est moi.
C'est Laurent. Comme par hasard.
Ouais, on va dire que c'est Brice.
Il s'est manifesté le premier.
C'est comme ça, puis c'est un peu moi le patron quand même.
Voilà,
c'est
étrange,
hein, jusqu'à 20h, donc ça se passe comme ça. À vendredi prochain.
Il y a un ami qui donne un prix.
RTL Soir, on défait le monde.
Winamax, les meilleures cotes.
Comme chaque semaine, nous accueillons un parieur Winamax sur RTL. Et ce soir, nous sommes avec Dimitri de Saint-Denis. Salut Dimitri.
Salut Raymond.
Bon alors Dimitri, tu as parié sur quel match de championnat cette semaine?
Cette semaine, j'ai parié sur un combiné de 6 matchs. Et avec la victoire de Lille, de Saint-Etienne, de Bordeaux, de Nantes et de Marseille. Hein.
Et tu as gagné combien avec ce combiné?
J'ai parié 60 euros sur une cote à 180 et au final, j'ai gagné 11 000 euros.
Mais non, 11 000 euros, c'est énorme.
C'est énorme. C'est sûr qu'on gagne pas ça tous les jours.
C'est clair. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu as choisi Winamax pour tes paris?
Parce que je pense que c'est l'application la mieux appropriée pour les paris sportifs.
Tu t'es basé sur quoi pour parier?
J'ai joué par rapport à l'effectif et non par rapport à la forme du moment du club. C'est plus une question d'effectif. Hein, parce que avec le Covid, il y a des équipes qui sont pénalisées de certains joueurs. Donc c'est vraiment une question d'effectif.
Ah ça c'est vrai. Et d'ailleurs, tu as une petite astuce à partager avec les nouveaux parieurs Winamax?
Pour les nouveaux parieurs, je leur conseillerais de profiter des soins offerts par Winamax sur le premier pari. Ça peut être vraiment, vraiment très intéressant.
Eh bien c'est noté Dimitri, merci beaucoup pour tous ces conseils. Et encore félicitations à toi, tu as assuré. À bientôt.
Au revoir Raymond, à bientôt.
Et à vendredi prochain pour une nouvelle chronique Winamax.
Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax.
Winamax, les meilleures cotes.
Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.